le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 5ème carton. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver. La dernière fois, on était à quelques heures de ce Super Bowl où les New England Patriots ont affronté les Rams de Los Angeles avec la victoire que l'on connaît des New England Patriots. Alors dans cette émission, on va l'aborder dans le sommaire, mais on va parler un peu plus tactique et le cas par cas des joueurs pour le training camp, vous le verrez sur le blog. Mais pour cette émission, je serai évidemment pas seul. Je serai accompagné de quelqu'un qui rentre à peine d'Atlanta. La dernière fois qu'on l'a eu, il était en direct, il mettait son badge autour du cou. Il allait rentrer dans le stade. C'est évidemment notre cher président. Bonsoir, président.
Salut à tous. Let's go, Pat. Et franchement, tu sais quoi, ton intro, elle m'a foutu les frissons parce que je me suis rappelé au moment où j'étais en train de vous parler la dernière fois et c'était juste dingue, quoi. Salut, Cédric. Et franchement, super content de vous retrouver tous.
Oui, tu pourras la réécouter, président. Tu fais, bon, je vous laisse. On a mis notre badge. Je dois y aller pour pas être en retard.
Putain, je l'ai jamais réécouté en plus.
Tu devrais. Frisson garanti.
Ouais, j'en suis sûr.
Allez, pour nous accompagner également, il nous fallait le Corse de service du fan club. J'ai nommé Jean-Jacques. Bonsoir, Jean-Jacques.
Salut. Salut, Jean-Jacques. Content d'être là et j'espère qu'on va passer une super saison comme l'année dernière.
Ah, moi aussi.
Ah oui, on l'espère
avec
tous.
Avec le final.
La saison fut difficile à suivre, mais c'est sûr. Si on peut avoir le même final, on prend.
Ah, pétard, je prends, ouais.
Allez, pour le sommaire de cette émission, on va d'abord très rapidement revenir un peu la globalité de cette off-season où je demanderai à mes invités de parler de ce qu'ils ont retenu de cette off-season, leur avis un peu, voilà, leur ressenti. Et puis très rapidement, on va rentrer dans le dur de l'exercice, où on va parler tactique. On va axer l'émission sur deux points. Sur le premier, on va parler de cette transition qu'on a vue un peu la saison dernière sur le jeu de course. Et justement, se poser la question, est-ce que les Patriots vont continuer leur mutation sur le poste de coureur et transformer l'attaque des Patriots en jeu de course. Et on va parler évidemment du rookie Harry, où on va se poser sa question de son positionnement, parce que est-ce que ça sera juste un receveur? Est-ce qu'il ne va pas avoir un combo receveur-tight end? Tout ça, je l'aborderai avec mes invités. La deuxième question qu'on va se poser, c'est sur cette défense. Les Patriots ont fait une super défense, notamment la saison dernière, avec Flores en playoff et au Super Bowl. Cette année, Flores est parti du côté d'un rival de division à Miami. Là, cette année, c'est Bill qui reprend les commandes, avec notamment l'arrivée de Jérôme Mayo. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais en parler avec le président et Jean-Jacques. Et enfin, on donnera chacun une petite surprise, un peu le Jesse Jackson de cette saison, qui pourrait apporter un peu une surprise, notamment au niveau des training camps. Quel joueur ça pourrait être? On se posera la question. En tout cas, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne émission. Le 5ème carton épisode, je ne sais plus, je ne compte plus. En tout cas, c'est parti. La off-saison des New England Patriots. Alors, on a vécu énormément d'émotions. On est passé de la joie, on est passé aux larmes, on est passé un peu partout, à l'emballement, à l'excitation, à la hype. On est passé par tous les états. On va pas la refaire en détail, mais on est passé de la joie de fêter le titre au Super Bowl à la tristesse avec le départ à la retraite du Gronk, avec la hype, avec la draft d'un receveur au premier tour pour les New England Patriots. Enfin voilà, beaucoup de choses. Des recrues à Fred Johnson, des Marius Thomas potentiellement qui peut être un très bon receveur ou pas, même s'il est blessé, on en discutera peut-être avec mes invités pendant l'émission. Enfin voilà, il s'est passé énormément de choses. On va commencer par le président. À ton honneur, quel est ton ressenti sur cette off-saison? Qu'est-ce que tu as envie de nous mettre en avant aujourd'hui?
Écoute, c'est une off-saison à la Patriote, c'est-à-dire qu'ils nous surprennent tout le temps. On n'est jamais sur quelque chose d'acquis. Et c'est là-dessus que Bill marque des points, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va là où on ne l'attend pas. Donc oui, on a plus grand que tous les fans sont tristes, etc. etc. D'un coup, qui nous sort, il nous sort une draft, premier tour, un wide receiver. Donc la dernière fois que c'était arrivé, c'était avec Terry Glenn, c'était en 95, je crois. C'est hyper vieux. Donc, depuis, les Patriots n'avaient plus drafté de receveur. Donc, ça montre bien à quel point Bill a un plan et, comme on a l'habitude de dire, in Bill we trust.
C'est ça, in Bill we trust. On va en parler parce que là, ça va être encore plus l'adage en défense, notamment, étant donné qu'il va reprendre le lead. Mais ça, on verra bien. Jean-Jacques, pour toi, qu'est-ce que tu retiens un peu cette off-saison? Quelles sont tes impressions avec un peu de recul maintenant?
Oh, bah, ça a été une option comme on la connaît, en fait, hein, comme on a l'habitude, je pense même, avec plein de rebondissements, des surprises, des interrogations, quelques doutes, toujours des doutes de toute façon. Hein. On se pose toujours la question si le staff fait des bons choix. Mais avec l'expérience, on se rend compte que le staff fait toujours de bons choix. Et le fait qu'on s'inquiète, c'est toujours un petit pincement au cœur. On se dit « Ah mince, il n'y a plus Gronk, y a des coachs qui s'en vont, on ne va peut-être pas pouvoir faire ce qu'on faisait avant. » Mais au final, ils trouvent toujours des solutions. Donc, je pense que ça risque d'être une bonne saison, quoi qu'il arrive. Voilà. Et cette off-saison est une bonne off-saison, comme d'habitude.
Très bien. Attention, hein, attention que nous-mêmes, que ce soit supporters, on dit toujours faire confiance au staff. Est-ce qu'à un moment donné, ils feront pas aussi des mauvais choix et que peut-être cette année, eux, ou potentiellement, est-ce qu'ils feront toujours les bons choix? Est-ce que tout va bien se passer comme on l'espère? Je fais exprès un peu de justement partir à contresens parce que attention à pas nous-mêmes, en tant que supporters, être toujours trop confiants et sachons tout trop pour s'en garder de temps en temps à être méfiants parce que.
De toute façon, à un moment donné, on va se tromper. C'est-à-dire qu'on est confiant, on est confiant, on va pas être premier toute la vie. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, on va être trop confiant et qu'on dira « Ah, vous voyez, vous étiez trop confiant. » Oui, mais ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Donc, et puis, ça fait 20 ans qu'on n'est pas trop confiant. Honnêtement, on est confiant depuis quoi? Depuis 3-4 ans qu'on dit ça, parce qu'il y a eu une histoire qui fait qu'on peut l'être. Mais au début, on n'était pas du tout confiant. En 2001, on n'est pas confiant. En 2002, on l'est pas. On a raison, on fait une saison de merde. En 2003-2004, on est au Super Bowl encore. On le gagne encore une fois. On est sidéré, on hallucine. On se dit, mais comment ça se fait? Mes Patriots, qui ont toujours été si nuls, sont si forts. Alors là, on commence un peu à prendre confiance, mais on se dit, mais bon, voilà, on a vécu le mieux qu'on pouvait. Eh ben non, ça fait 2003, c'était il y a bien longtemps.
Non, mais c'est ça, ouais, tu as raison. Mais à un moment donné, les journalistes sportifs qui nous détestent, disons, un jour, ils auront raison.
Mais évidemment.
Forcément.
C'est une certitude.
C'est qu'une question de probabilité et de temps. Hein.
Non, mais
à un moment
sûr.
Donné, la pièce, elle arrêtera de faire face. Hein.
Est-ce que...
Non, mais je vais même te dire un truc. C'est du bonus qu'on vit.
Oui,
comment ça
sûr.
Sera arrêté il y a 5 ans, je dirais déjà que c'est exceptionnel.
Là
c'est
fait,
du bonus.
Fait,
l'an prochain, tu vas, je sais pas, en finale de conf, bah, tu es content aussi, c'est pas grave. Tu sais quoi,
ça
si on n'a pas gagné
arrêté,
tout,
ça sera
pas gagné toutes les années.
Au match contre les Seahawks, où on gagne ce Super Bowl, mais vraiment à la dernière minute.
C'est presque enfin, pas de la chance, mais pas loin. Hein.
À ce moment-là, je pense que j'aurais pris quand même. Hein.
Ben, voilà. Bien sûr.
Voilà, là, c'est toutes les années qui vont suivre, là, avec Brady qui continue.
C'est du bonus.
C'est
clair. Ouais. Et c'est en ça que le hater, celui qui nous déteste, tu en parlais tout à l'heure, je suis désolé de lui dire qu'il a perdu. Parce que quoi qu'il arrive, nous, on est contents maintenant. Et alors ça peut les rendre fous. Mais je suis désolé, c'est comme ça. À un moment donné, il faut accepter. Moi, au basket, j'aime pas LeBron James. Il gagne des titres, bravo pour lui. Il faut arrêter à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça.
J'ai du mal avec cette haine, en fait. Bon, on part sur un autre sujet. Là, on est en train de refaire une autre émission, Cédric. il faut nous arrêter.
Mais c'est intéressant,
mais voilà.
C'est intéressant.
Non, mais voilà. Donc, il faut comprendre que nous, c'est que du plaisir maintenant.
C'est ça.
Que non, on n'est pas confiants. C'est qu'ils nous ont tellement sidérés, les Belichick et compagnie, que bon, écoutez, pourquoi pas leur faire confiance encore une fois? Et puis, s'ils se plantent, on leur dira merci pour tout ce que vous avez fait avant. Et puis voilà.
C'est ça.
C'est pas ce que les gens diront, par contre. Certaines personnes.
Évidemment, mais c'est normal. C'est normal, détester.
On reconnaîtra les vrais fans à ce moment-là.
Bien sûr, mais c'est toujours pareil. C'est détester l'équipe qui gagne. C'est juste habituel. Quand elle gagne trop, c'est normal de la détester. On n'aime pas les gens qui gagnent trop. Donc,
Ouais, mais je crois qu'il faut rester objectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas les LeBron James. Je suis capable de dire que c'est avec Jordan le meilleur joueur de
tous
les temps.
Mais tout le monde, malheureusement.
Il faut en être capable. Voilà, oui, il faut un peu d'objectivité aussi.
Bien sûr,
on est tous fans, on crie fort, on s'excite. Ok, à un moment donné, on a la tête reposée, on peut aussi réfléchir.
Bien sûr, mais tout le monde, malheureusement, n'est pas objectif. Mais en tout cas,
ouais, bah c'est dommage.
C'est dommage. Mais en tout cas, si on revient un peu sur le sujet très rapidement avant d'enchaîner, est-ce que, ça on le saura par le passé, est-ce que vous sentez, au-delà du terrain, parce que tout ce qui s'est passé, on en a fait un article sur le blog justement, où il y a énormément de changements dans le staff, mais aussi dans les bureaux. On est arrivé à cette intersaison aussi à avoir beaucoup de départs. Est-ce qu'ils étaient préparés à rester et voyant que ça perdure, tout le monde s'en va en disant ben finalement, je m'attendais à prendre le lead et je l'aurai jamais donc je m'en vais. Est-ce qu'on n'est pas à un moment donné aussi à peut-être dans l'histoire des. Alors c'est trop tôt, hein, mais votre ressenti comme ça à chaud, dans l'histoire des Patriots, c'est un tournant. Le cas le plus. On va dire le plus récent, c'est Nick Caserio qui était quasiment à deux doigts de partir chez les Texans. Donc, est-ce qu'on n'est pas un moment charnière en se disant « Ben oui, effectivement, c'est encore du bonus, mais il est toujours là, donc les autres, eh ben, pensant prendre la relève parce qu'ils ont été formés pour, ben, ne la prennent pas, Jean-Jacques, qu'est-ce que t'en penses ?»
Oui, non, c'est sûr. Mais après, les départs des coachs, à un moment donné, ils vont... là où le nerf de la guerre est là, hein. C'est-à-dire que oui, on gagne, oui, on a des titres, oui, ces personnes-là n'arriveront pas à devenir head coach chez les Patriots parce que l'accès est bouché par Belichick, bien sûr. Mais à un moment donné, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils désirent ? Ils désirent aussi du pognon, ils désirent un contrat juteux, disons. Et c'est ce que les autres proposent, même si c'est pour 2 ans. Tu gagnes deux, trois fois ce que tu aurais gagné chez les Patriots au final. Donc, oui, c'est normal qu'ils partent. Et personne ne leur en voudra hein, d'aller pour faire que sa vie soit meilleure, disons. Mais c'est sûr que le fait d'aller chez Miami pour Flores, par exemple, tu ne t'attends pas à gagner le titre dès la première année.
Hein. Oui, c'est sûr.
Voilà. C'est...
On serait surpris, là, vraiment, si Miami gagne le titre l'an prochain, je vous jure que je suis surpris.
ça voudrait dire qu'on a fait une erreur en le laissant partir. Mais,
bah oui, là oui.
Mais par contre, je me doute bien qu'il va faire progresser Miami.
Ah ouais, mais
c'est
parce
le
que...
but.
Bien sûr, et il n'arrive pas tout seul. Alors, Flores,
après,
Oshie, le coach...
S'il serait resté un an de plus chez nous, en coordinateur défensif, je suis sûr que le titre aurait été plus facile à gagner avec lui.
Bien sûr.
Et ça, il le savait. Mais au final, il voulait avoir plus de responsabilités, plus d'argent. Miami, il y a beaucoup de soleil, il y a moins de neige. Voilà, ben, c'est un choix. Après, c'est pas un mauvais choix pour lui, c'est pas un mauvais choix pour nous. Mais bon, est-ce qu'on va le regretter ? Peut-être. Ça sera la saison de nous le dire. Voilà.
Et président, parce que là, on parle des coachs et tout, mais en termes de symbole aussi, on était à deux doigts. Moi, je reviens sur le cas de Nick Caserio qui était... quasiment qui fonctionne maintenant en duo avec Bill sur le côté recrutement, sur le côté draft et tout. Vraiment, il est clairement impliqué, on le sous-estime beaucoup. Mais là, de le voir potentiellement partir, c'est qu'on se dit que finalement, Bill est peut-être là encore pendant des années et qu'on pensait que c'était la relève parce qu'ils construisaient tous dessus. Et au final, on est en train de dire que peut-être on repart potentiellement à zéro. Là pour encore quelques années. Alors, tant mieux peut-être, parce qu'avec Bill, We Trust, etc. Mais c'est potentiellement un bouton reset qu'on fait aussi dans la structure et dans la formation du futur de la franchise.
C'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé. Pour moi, c'est vraiment... on rentre dans une nouvelle ère avec ce départ de Caserio.
Enfin, il n'est pas parti, il est toujours là. Hein.
Et même... Pardon ?
Il est toujours là, il n'est pas parti, hein.
Oui, oui, non, bien sûr, mais l'éventualité du départ, ce qui s'est passé là, ces derniers mois, là, je trouve Je sais pas, ça me plaît pas. C'est on rentre dans, pour moi, on rentre dans une nouvelle ère. Alors après, qu'est-ce que ça va donner, j'en sais rien. Je vais même parler dans cette nouvelle ère aussi de Kraft qui a eu ses soucis de, avec la justice. Là. Ça paraît anodin, mais Kraft, il a été sans doute touché par cette histoire.
Oui.
Peu importe, on n'est pas là pour dire il avait raison, il avait tort, il est coupable, il n'est pas coupable, je m'en fous. Quoi qu'il en soit, ça va les toucher. Et le départ de Flores, ça va les toucher aussi, parce que Flores... je suis bien placé pour en parler. Le dernier Super Bowl, faut voir ce qu'il a fait. Quoi. La meilleure équipe offensive de l'année, ils ont mis 3 points. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand la dernière interview qu'on fait ensemble, je vais me diriger vers le stade d'Atlanta pour assister au Super Bowl. Je vous garantis que je me fais pipi dessus. Je me dis, mais on va se prendre 30 points. Eh bien, il faudra en mettre 33. Bon, ben, c'était complètement l'inverse qui s'est passé.
C'est ça.
Et ça, on le doit à Flores. C'est-à-dire qu'il a réussi, avec une main de fer, à diriger cette défense. Et honnêtement, cette défense, sur le papier, c'est pas une défense de pro bowler, quoi, qu'on a. Donc voilà, pour moi, tout ça fait que on rentre, alors peut-être pas dans une nouvelle ère, j'exagère, mais dans un acte suivant. Voilà, on est dans un nouvel acte, on n'est pas dans une nouvelle scène, on est dans un nouvel acte. Et est-ce que ce nouvel acte va fonctionner? Comme on le disait tout à l'heure, on n'en sait rien, peut-être que non, et nos détracteurs diront: ah, ça y est, c'est fini, les pattes sont nuls, on vous l'avait dit. Bon, voilà où on en est. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Après, comme il disait Gigi, on peut pas en vouloir à Flores de partir. Il fait une saison de fou. Finit par un Super Bowl extraordinaire. Rappelez-vous les Charlie Weiss, les Romeo Crennel. On en a eu qui sont partis. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pas grand-chose. Si quelqu'un aujourd'hui peut me dire ce qu'ils sont, alors oui, on peut me dire ce qu'ils sont devenus. Mais est-ce que vraiment ils ont réussi? Moi, je crois pas. Donc, est-ce que Flores réussira à Miami? Honnêtement, ça va être très, très, très difficile pour lui. Est-ce que nous, on va réussir sans lui? Ça sera peut-être plus facile pour nous, même si c'est délicat, ça sera peut-être plus facile.
Oui, mais moi là, nous, on en reparlera au niveau du coaching, notamment sur la défense tout à l'heure. C'est effectivement, comme tu le dis, c'est un nouvel acte avec le possible départ qu'a failli avoir de Nick Caserio. Attends, ça veut dire que quelque part, Bill va reprendre la main, parce que, à moins, on ne sait pas ce qui a été dealé après par la suite pour qu'il reste pas, etc. On n'est pas dans le secret des dieux. À moins que le président ait des infos, mais nous, on n'est pas dans le secret des dieux.
Non, j'ai aucune info là.
Donc, on ne sait pas, et ça veut dire que Bill reprend plus la main. Ça va être difficile, ça va être avec le recul que l'on va voir. Est-ce qu'aussi, ce n'est pas à un moment donné de dire c'est peut-être l'acte de trop, et de se dire il aurait peut-être fallu commencer vraiment à enclencher, de laisser petit à petit la main pour que, justement, tout se passe bien. Et là, on est en train de dire, ben non, il récupère encore plus en plus de responsabilités, comme il faisait avant, donc ça a très bien marché jusqu'à présent. Mais ce qui a été fait par le passé, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Est-ce qu'il va encore pouvoir, Bill, se réinventer à la fois dans son coaching, à la fois dans la manière de faire, que ce soit sur la défense, de la manière globale de piloter la franchise? Il y a plein de choses qu'on saura au fil du temps, avec le recul. Ça va être intéressant à suivre ces premiers temps sur la saison, mais on verra au fil du temps, sur les recrutements, sur les décisions qui seront prises, etc., petit à petit, on verra ce qui se passera. Peut-être qu'effectivement, ils vont faire encore appel à de plus en plus d'anciens, et moins dans la formation, on ne sait pas.
Ça va être... Il y a un autre élément aussi qu'il faut souligner, c'est que Bill, malgré tout, il a 67 ou 68 ans, je crois. Donc, il approche les 70. Lui donner plus de responsabilités, encore plus de boulot. Il y a ce côté-là aussi qu'il faut prendre en considération.
Bien sûr.
Alors, il devient sans doute... encore meilleur parce qu'il a de l'expérience, mais il faut pas non plus qu'il se fatigue trop non plus, tu vois.
Non, mais c'est ça, il a l'expérience, mais il faut
le ménager un peu, je pense. Il faut commencer à y penser, en tout cas.
Il a l'expérience, mais il faut qu'il s'adapte. Et donc là, il est en train de l'en avoir de plus, parce qu'avec un possible départ, Nick Caserio, il va prendre de plus en plus la main. Un des recruteurs en chef est parti, donc il va avoir peut-être encore plus de décisions. Enfin, plein de choses. Bah, au final, oui, il a de l'expérience, mais est-ce qu'il va savoir se réinventer? Parce que la NFL d'aujourd'hui était pas celle d'hier. Donc, on verra. Ça va être vraiment des éléments à suivre sur le long terme. Et on verra si, effectivement, comme tu le dis, cet acte, ce futur des Patriots va bien s'enclencher, ou si les choix qui sont passés pendant notamment cette off-saison, on se rendra compte que c'est un point clé qui fait qu'on a un futur plus ou moins bien. En tout cas, nous, on va attaquer le premier dossier de cette émission, le premier débat, où on va parler de ce que déjà on avait vu la saison dernière, la mutation de l'attaque des New England Patriots axée sur le jeu de course. Alors, le jeu de course. Comme vous l'avez pu le voir la saison dernière, les New England Patriots ont drafté un rookie, donc running back, qui était Sonny Michel, qui a fait une excellente saison, même si on savait qu'il était un peu assujetti à des blessures. Ce qui fait que les New England Patriots ont montré, justement, avec un Brady, et qu'il est vieillissant, même si on sait que, comme vous avez pu le voir sur la page, il sera encore là en 2040. En tout cas, le jeu de course des New England Patriots va devenir de plus en plus important, parce que Sonny Michel est vraiment dans un style qu'on n'avait pas jusqu'à présent au niveau des Patriots. C'est vraiment un joueur extrêmement complet. Donc, est-ce que pendant cette saison, très probablement, on va continuer à s'orienter vers vraiment le jeu de course comme point fort de l'attaque des New England Patriots, et vraiment une attaque basée sur le jeu de course, et Brady sera là en complément pour le jeu de passe? Ça va être un des sujets qu'on va suivre cette saison. On parlera aussi dans un deuxième temps du rookie Harry et de son positionnement, parce que ça aussi, ça y jouait, notamment avec l'absence de Gronk qui a été énormément important la saison dernière, notamment sur pour créer des brèches au niveau des blocages. Jean-Jacques, pour toi, ton avis, quel va être, comment tu sens cette saison, notamment au niveau tactique de cette attaque des New England Patriots?
Alors moi, je sens une saison 2.0 en fait. Garder la ligne directive qu'on avait cette année. Et je pense que la draft a fait qu'on se dirige dans cette direction, en fait. Parce que, oui, on a encore drafté un running back. On va faire en sorte, en fait, de rester sur cette ligne qui a marché, en fait, l'année dernière. Bien sûr, on a perdu Gronk, mais on l'a remplacé, apparemment. J'ai ma petite idée là-dessus. Je vous en parlerai tout à l'heure sur mon rookie de l'année. Mais oui, je pense qu'on va rester sur la ligne directive de l'année dernière, je pense. Et on va courir autant que l'année dernière, mais aussi on va faire des passes. Parce que de toute façon, hein, le football, c'est ça.
Président, quel est ton avis un peu sur cette saison?
Écoute, Je suis un peu de l'avis de Gigi, c'est-à-dire que je nous vois mal partir sur une équipe qui fait que courir. Voilà, on n'est pas les Steelers, on n'a pas Jérôme Bettis, hein, donc on peut pas être les Steelers de l'époque. On n'est pas ces équipes qui passent tout le temps par le sol dans des matchs durs, etc. On a Tom Brady. Je veux dire, si on n'utilise pas la passe avec Tom Brady, alors c'est pas la peine de jouer au football. Et puis, il y a d'autres éléments qui me font aller dans ce sens, parce que moi, le départ de Gronk, il me fait absolument pas peur. On va juste, pour moi, changer de système. Et c'est un peu le thème de l'émission. Pour moi, déjà, il faut, premièrement, avec Gronk, je pense qu'il faut arrêter ce va-et-vient. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient pas? Ça, moi, vraiment, je vous le dis, je n'en peux plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est Gronk ou si c'est les médias qui font ça, hein, on n'en sait rien. Peut-être un peu les deux. Mais à un moment donné, si tu t'en vas, tu t'en vas. Tu laisses les autres travailler. Et si tu ne t'en vas pas, ne dis pas que tu t'en vas. Voilà. Donc là, moi, là-dessus, je l'ai un peu mauvaise. Alors, je ne sais pas si c'est envers Gronk ou envers les médias. Prends une décision, quoi. S'il te plaît, Gronk, et tiens-toi-y. Fais même une conférence de presse où tu dis « Non, arrêtez, je ne reviendrai pas. » Voilà. Et au moins, on peut travailler. Parce que là, les va-et-vient, c'est insupportable. Donc moi, le départ de Gronk, bien sûr qu'on ne peut pas se passer de Gronk, il est monumental. Mais on va changer notre système de jeu, parce qu'on n'a plus Gronk, justement. Donc on ne peut pas continuer comme avant. Donc,
pour moi, ça, je vais te dire, ça, j'ai regardé, j'ai lu deux, trois articles sur une personne qui pourrait le remplacer uniquement sur les blocs.
Oui, non, mais après, les blocs, de toute façon, il va falloir trouver quelqu'un. Parce que... ouais. Mais c'est plus facile de remplacer Gronk dans les blocs que remplacer Gronk dans les blocs et la passe.
Ah. Parce c'est que sûr. Non, c'est impossible.
Il était bon partout. Tu peux donc pas, en fait, tu ne peux
alors
pas.
Tu trouves une pépite, mais là.
Mais non, mais tu peux pas. Tu as un Hall of Famer.
Mais après, la saison dernière, Gronk, c'était que les blocs. C'était que des blocs quasiment. Il y a eu très peu de réceptions à la passe, hein, au final.
Ah, quand même, sur les troisièmes tentatives.
Sauf qu'il te fait la réception.
On nous a sauvé quelques fois.
Bien sûr,
sauf qu'il te fait la réception qui te fait gagner le Super Bowl.
Bien sûr, oui, mais pendant toute la saison, au final, Gronk, on s'est toujours dit, est-ce qu'il est pas sur la fin? Parce que voilà, il ne capte plus rien.
Ouais, mais. Il y a toujours les petits éclairs de génie qui nous a sorti des actions qui ont fait que le match a changé, quoi.
Et puis, je vais te dire autre chose. Qui c'est qui dit ça, ce que tu dis, Cédric? C'est les gens qui aiment OBJ, qui aiment Brown, qui aiment les receveurs fantasques, qui en font des caisses. Gronk, il en fait des caisses quand il est sur un plateau TV. Mais quand il est sur le terrain, il joue, le mec. Et je peux te dire que niveau bloc, c'est hyper important ce qu'il faisait. Et en fait, celui qui regarde les matchs et qui connaît mal le foot américain, finalement, il va dire « Ah, oh, il est un peu en deçà, Gronk. » Non, il n'est pas en deçà. Il te fait des blocs. Si tu ne les as pas, tu ne gagnes pas, en fait.
On est d'accord. Sur ça, on est d'accord que côté bloc, c'est moi pour voilà, moi, l'absence est... de Gronk.
Donc, c'est moins flashy, mais c'est super important bloc, hein. aussi.
Ah, moi, je pense que l'importance de Gronk, la différence entre l'année dernière et cette année, ça va être vraiment au niveau des blocs. Je ne suis pas inquiet au niveau de la réception. Parce que je pense qu'on a su s'adapter à la saison dernière, justement, en axant un peu plus peut-être sur le jeu de course, en faisant moins de passes, en faisant d'autres cibles, en faisant différemment. Mais par contre, effectivement, là, pour moi, l'absence de Gronk, où là, il va falloir se réinventer, et ce qui va être hyper important, c'est le jeu de bloc.
Ça va.
Très clairement.
C'est le jeu de bloc.
Donc on va voir.
Oui, mais le jeu de bloc, tu peux le trouver, comme on disait tout à l'heure, on peut le trouver. Le jeu de passe, tu peux pas. Et c'est là qui, à mon avis, au niveau de la passe, il va falloir changer un système. Bien sûr. Parce que tu peux pas faire ce que tu as fait au Super Bowl l'an dernier, parce que l'an dernier, on gagne quand même avec un seul receveur. Hein. Il y a Edelman et c'est tout. Et c'est pas pour rien qu'Edelman il est MVP. C'est qu'on a joué que sur Edelman. Et c'est tu ça. Veux pas tenir une saison avec Edelman. Mais c'est sauf ça. Que, et on va en parler plus tard, tu n'as pas personne à la réception cette année. Tu as Berrios, tu as peut-être Josh Gordon qui revient, tu as Demarius Thomas, tu as Edelman, tu as Harris, tu as Berrios qui va sortir. Donc tu as plein de receveurs en réalité.
Bien
donc
sûr.
Après, il y a moyen de remplacer Gronk avec un autre système de jeu, mais avec plus de receveurs.
Ah oui, bah après, de toute façon, on va le voir. Et puis, vous avez déjà pu un peu creuser au niveau de vous avez pu lire au niveau du blog sur les articles qu'on potentiellement, on a pu sortir sur justement un peu le détail des joueurs par joueur au niveau du training camp. Après, il y en a, c'est des vraies questions. Tu parles des receveurs, mais au final, oui, effectivement, une liste de receveurs qu'on a un training camp. Personnellement, à part Edelman et quelque part Harry, tout le reste, ça reste quand même pas mal de points d'interrogation. Berrios, on l'a
oui, mais Berrios, tu sous-estimes en disant ça le temps passé de Berrios derrière sur le banc de touche et dans les camps.
C'est-à-dire que Berrios,
on l'a pas vu. Ça, il n'a pas été drafté cette année, Berrios. Donc non, ça veut dire que ça, qu'il est là, il étudie le truc depuis un certain moment.
Après, le problème, c'est qu'il n'a pas joué. Il a été souvent blessé.
Oui, mais t'inquiète pas. À un moment donné, les gens rentrent sur le terrain et jouent bien.
Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça reste, pour le moment, des points d'interrogation vu qu'on l'a peu vu sur le terrain. C'est tout. On ne sait jamais.
Ouais, mais regarde l'an dernier, Michel était un point d'interrogation. On regarde la saison qu'il a fait.
Bon, Michel, oui, t'es un point d'interrogation, mais un peu moins parce qu'il a quand même été drafté haut. Enfin, c'est des trucs où, voilà, on s'attend quelque part à ce qu'il y ait une vraie performance. Toi-même, tu l'as dit, Michel, on sait déjà qu'il va être performant.
Ouais, mais
son problème de blessure. Là, attention, certains, on verra. Franchement, je suis assez confiant parce que je pense qu'on va se réinventer, qu'on va trouver de nouvelles solutions. On a déjà fait des saisons quasiment sans Gronk. On est allé au Super Bowl sans Gronk quand il a été blessé, etc. Donc, on va trouver des solutions, mais ça sera clairement, ça sera différent.
Tu sais quoi, les seuls inconnus qu'on a, c'est ni Berrios ni Harris, parce qu'un premier choix, vu comme il est en train déjà de travailler, hein, parce qu'Harris, il est tous les jours sur le terrain en train de bosser avec Brady, hein, donc il est déjà prêt. Berrios, il a passé l'année dernière à étudier, à jouer dans les camps, à jouer à l'entraînement sans jouer sur le terrain. Il a qu'une envie, c'est de montrer enfin qu'il est. Edelman, il a qu'une envie, c'est de montrer qu'il est toujours là après son titre de MVP du Super Bowl. Donc, ces trois, pour moi, c'est pas une inconnue. Les inconnus, c'est les nouveaux. C'est Demarius Thomas et Ben Watson.
Ouais. Oui, bien sûr.
Et bien sûr, Gordon, parce qu'on sait pas s'il revient ou pas.
Pour moi,
ces trois-là, c'est que du bonus au final. Parce que
mais
tu
voilà,
peux
mais
sortir,
si, même s'ils si, sont pas
t'en sortir avec Berrios, Harry, tu peux t'en sortir avec Edelman. Et si jamais Flash revient, ça c'est aussi, tu vois. C'est, mais déjà, rien que à 3, déjà, tu es mieux qu'à 1. Parce que l'année dernière, on était à 1.
Pour moi, Gordon, je le compte pas pour la simple et bonne raison. Il y est pas. Et
oui, pour
l'instant. Regarde, la saison dernière, on a travaillé beaucoup sur Gordon. Et il a fallu heureusement que les gens ont voulu travailler, etc. Mais quand il est parti, il a fallu se réinventer parce qu'on a beaucoup joué sur Gordon, donc on a travaillé un peu moins d'autres sujets. Et donc tout
ça s'appelle bricoler.
Bien sûr,
on a bricolé.
Tout le monde s'est mis au diapason pour. Là, à un moment donné, on travaille comme ça. Si Gordon revient, à lui de s'intégrer. Mais on peut pas se dire oui, mais si.
Cédric. Pour moi, Cédric, souviens-toi, quand Gordon. Se fait attraper, se fait virer, enfin, s'en va. Moi, j'ai écrit un article parce que j'en avais marre d'entendre dire « ça y est, c'est la saison des Patriotes, c'est terminé ».
Bien sûr.
D'accord ? Donc, j'ai écrit un article et où dedans, j'étais énervé, j'étais triste parce que Gordon, je pensais qu'il apportait énormément et j'étais plutôt touché déçu par ce départ et déçu. Et je me disais, ça va nous affecter, c'est sûr. Et dans l'article, vous pouvez le retrouver, hein, j'ai marqué à la fin, enfin même pas à la fin, pendant l'article, j'ai marqué, il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a quand même Patterson, alors là on l'a plus, mais on avait Patterson et on avait Dorsett.
Dorsett, ouais.
Il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut faire une alternance course-passe avec ces trois-là. On a Patterson, Dorsett et Edelman. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en play-off. Et Dorsett, il nous fait une réception à Kansas City. Si elle n'y est pas, on ne va pas au Super Bowl. Donc, tu peux aussi, avec des Dorsett ou des Patterson, aller au Super Bowl. Ne me dis pas qu'avec un Berrios ou un Harris, tu peux pas faire une bonne saison.
Tu peux gagner un match avec ceux-là, mais par contre, une saison complète, je ne sais pas.
Oui, mais tu oublies qu'il y a Ben Watson, Josh Gordon et Demarius Thomas qui sont quand même
Ils sont quand même pas absents. C'est ces petits ajouts qui vont faire le changement qu'on n'avait pas l'année dernière. Et on a juste bricolé pour un match. Tu peux faire du bricolage pour un match, mais tu ne peux pas faire un bricolage pour toute une saison.
Ça, c'est évident. C'est évident, mais sauf que il y a un truc auquel il faut penser, c'est que Bill, ça, il en est conscient. Depuis le match de Kansas City, il sait déjà comment ça va se passer cette saison. Hein. Il est en avance, il est toujours en avance. Tu sais, il y a un proverbe qui dit que gouverner, c'est prévoir. Bon, ben, il prévoit tout, Bill, et c'est pas pour rien qu'il gouverne parfaitement bien les Patriots.
C'est ça.
Bien sûr. Mais il n'y a pas que Bill. Hein. Il faut rendre hommage aussi à McDaniels. On a beau lui dire, garder quelque part dans un coin de notre tête le McDaniel quand il était au Broncos et tout, mais je suis désolé, depuis quelques saisons,
il s'est amélioré. Moi j'étais pas du tout fan de McDaniels juste avant qu'il parte au Broncos, j'étais même content qu'il parte au Broncos, j'ai dit oui, il m'a saoulé, j'aimais pas du tout. Là c'est plus du tout le même McDaniels, et on l'a vu au Super Bowl. Regarde, au Super Bowl on a joué une nouvelle tactique, un nouveau système de jeu, et McDaniels d'avant les Broncos, il n'aurait jamais réussi à faire ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait fait passer Tom Brady à fond. Il aurait dit, allez Tom, tu balances des passes, tu balances
vas-y,
des bombes.
Vas-y, envoie des bombes et
vas-y,
on voit ce qui se passe.
Envoie tout sur Philippe Dorsett, quoi. Et on aurait eu 12 interceptions. Non, mais c'est sûr. Donc, non, c'est il a raison, il faut vraiment le féliciter aussi.
Ah ouais, donc c'est pour ça. Ça va être intéressant de voir un peu quelle va être la nouvelle proposition, parce que là, on a le temps, justement, de travailler sur des nouveaux playbooks, des nouveaux systèmes de jeu, avec de la diversité aussi. Avec des coureurs qui sont déjà un peu plus anciens, Michel, ça sera dans sa deuxième saison, donc on attend qu'il performe encore plus. On a drafté des running backs potentiellement qui peuvent aussi être très utiles. On a toujours Wright qui est toujours là. On a plein de choses, effectivement, qui font qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir proposer quelque chose, qu'on va pouvoir construire un fond de jeu où on n'est pas sur des incertitudes. C'est pour ça que pour moi, Gordon n'y est pas, et il faut pas. Aujourd'hui, ils ne doivent pas travailler sur le playbook en disant si on a Gordon. Gordon n'y est pas. Eh bien, il n'y est pas. Et là, s'il revient, on complétera, on fera des additions, on s'améliorera. Mais pour le moment, on doit travailler.
Mais tu sais que je pense que le choix de Damien Harris, le coureur, je pense qu'il est là pour ça. C'est-à-dire que comme il n'y a pas Gordon, on a quand même un gros manque en profondeur. On espère que Demarius Thomas, il va le combler. Mais on n'en est pas sûr. Du coup, on a Damien Harris au cas où pour revenir à un jeu de course plus impliqué, plus présent. Je pense que c'est pour ça. À mon avis, on va avoir un mélange entre Harris et Michel.
Surtout que Michel, il a fait une saison l'année dernière, qui était sa saison rookie. Il a performé. D'accord ? Il a fait une super saison.
C'est le moins qu'on puisse dire.
mais cette année, les défenses vont commencer à comprendre, à lire Michel. La première année, c'est difficile de s'adapter. Mais là, maintenant, les défenses vont réussir à s'adapter à ce genre de personnage, à ce genre de joueur qu'on n'avait pas avant. Et maintenant, ils vont jouer différemment contre nous. Et c'est là que Harris va intervenir et va faire un petit peu ce rôle de tampon pour dire on peut faire ça, mais on peut faire ça aussi.
Bien
donc,
sûr.
Voilà. Et c'est ce qui arrive souvent au running back. La première année, ils performent, quand ils performent. Hein. Et la seconde année, ils sont un petit peu moins bons parce que les défenses ont réussi à s'adapter à ce joueur. On verra bien comment ça va se passer. Je fais confiance à Bill et je fais confiance à McDaniel pour ça. Mais c'est vrai que j'attends une saison de Michel un peu moins, aussi bonne, hein, mais un peu moins étincelante, disons.
Bien sûr. Et il ne faut pas oublier une chose. Voilà. Il y avait Gronk sur le terrain. Parce que Gronk, on a beau dire, même s'il faisait moins de réceptions, les défenses adverses n'avaient pas le droit de laisser Gronk tout seul. Donc, tu es obligé de décaler un, voire deux mecs sur Gronk. Donc, effectivement, tu avais plus de trous. Là, tu n'as pas Gronk. Donc, tu as clairement une menace en moins, mais au moins une feinte de menace. Donc,
je pense qu'ils vont augmenter le jeu au bloc, en fait. Je pense qu'on va avoir une ligne offensive un peu supérieure, je pense.
Oui, ou alors, justement, on va, avant de passer à la...
Il te manque Trent Brown, hein, quand même.
Oui, ouais, je sais. Vrai.
N'oublie pas ce départ, on en parle peu, mais c'est hyper important.
Bien sûr. Après,
il va falloir le faire monter.
Quid du rookie qui va falloir jouer à Isaiah Wynn. On va voir ce qu'il va
donner. Oui, sauf que tu parlais tout à l'heure d'inconnu. Isaiah Wynn, j'ai beau adorer, c'est une inconnue aussi.
Ah, mais clairement. Oh non, il y a vraiment.
Au même titre que Berrios.
Bien sûr. Totalement d'accord. Ah, mais totalement d'accord. Et une autre inconnue qui va être vraiment aussi curieux, et on va voir ce qui va se passer. On peut avoir des surprises aussi de ce côté-là, parce que justement, c'est un rookie que. Pour les adaptations des équipes adverses, ça peut être pas évidente. C'est le receveur, pour le moment receveur, qu'on a drafté au premier tour, qui est Neil Harry. La question, messieurs, c'est quel va être son positionnement ? Parce que, oui, effectivement, c'est un receveur avec ses qualités, avec d'énormes mains, mais qui a des difficultés à se séparer de son défenseur. Et finalement, peut-être qu'il a des énormes mains, même s'il reste au contact de ses défenseurs, mais qui arrive à faire la différence. Est-ce que ça ressemblerait pas aussi potentiellement à une position de tight end ? Est-ce qu'on va pas avoir un joueur qui va être un prototype, nouveau prototype inventé par Billy Jux McDaniels, après quelque part où on a accès à un jeu sur un slot receiver, ce que faisait peu avant la NFL, est-ce qu'on va pas avoir maintenant un receveur slash tight end, slash block, un
nouveau prototype ? Souviens-toi à mon article quand on l'a drafté. C'est exactement ce que j'ai dit à l'intérieur. J'ai dit, vous me voyez venir ? Et je posais des questions et je disais, est-ce que vous me voyez venir ? Et en fait, j'exposais ça de la même manière que toi. C'est que c'est un mec qui va jouer, il va jouer du grand, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer du grand, mais au lieu d'être un tight end bloqueur receveur, ça va être un receveur receveur bloqueur.
Oui, c'est ça. Ça va être complètement ça. Il va faire des motions en position tight end, etc. Oui,
Depuis sa draft, je pense à ça.
Oui, parce que c'est pas...
Ça va être ça, de toute façon.
Bien sûr. Parce qu'il n'a pas une capacité de vitesse pour se défaire des défenseurs. Par contre, c'est quelqu'un qui, au duel, est présent et avec de grosses mains. Ça ressemble fortement quand même à des qualités de tight end, plus qu'à un receveur complètement excentré qui, je schématise, qui court tout droit et qui se défait en vitesse. Donc,
ah, mais c'est sûr que ça sera un receveur qui sera plus proche de la ligne que plus proche du bord du terrain. Ça, c'est une évidence. Mais après, à savoir comment il va être aligné sur le terrain, je sais pas. Ça va être une interrogation après.
Non, mais c'est ça, c'est ce qui va être extrêmement curieux à voir cette saison. C'est comment les Patriots vont l'utiliser. Peut-être pas dans la manière la plus classique qui soit, sur un receveur écarté, et puis allez, vas-y, mon coco, cours, démarre ton défenseur et je te fais des
passes. On a des Marius Thomas qui va être dans ce rôle-là, justement.
Voilà ce que j'allais dire. Après, ou Josh Gordon, s'il revient.
Ou Josh Gordon, avec Josh Gordon des deux côtés. Hein. Ça peut être un Josh Gordon d'un côté, un Demarius Thomas de l'autre. Et Harris en plein milieu pour faire le avec un Edelman qui peut servir de tampon avec quatre receveurs, ça fonctionne très très bien.
On oublie Dorsett aussi, c'est-à-dire que
et Dorsett, c'est pas, oui, ça c'est pour faire tourner ton effectif.
Dieu vivant, mais
parce qu'à un moment donné, tu es obligé de faire tourner ton effectif.
Exactement,
hein.
ils vont être dans ce rôle-là.
Moi, je pense. Alors après, c'est une position, et parce qu'on le verra tout à l'heure potentiellement dans ce que j'espère considérer comme potentiellement une surprise. Je pense que Dorsett ne fait pas les camps, passe pas le cut. Je pense que.
Non, je suis pas sûr.
Je pense que.
Ah non. Moi, non, je pense non, que. Il y a d'autres personnes à côté.
Il y en a d'autres que tu vas virer, ouais.
Oui, mais je pense qu'entre un Berrios.
Tu as des Patterson, tu as des Harris, tu as des. Enfin, Maurice Harris, tu as. Voilà,
tu en as un bon paquet, hein. Mais je pense que.
Il y a Inman, il y en a plein.
Oui, mais ceux-là, ils passeront probablement pas le cut. Inman, attention, est peut-être un peu plus special team, donc peut-être que ça peut aider. Mais en tout cas. Attention, moi, un Berrios.
Moi, tu sais qui
c'est. Myers. Il peut prendre la place de Dorsett pour moi.
Et attends, tu sais pas si Thomas, il va faire. Demarius Thomas va faire l'affaire aussi.
Ah, on est d'accord.
Parce qu'il y en a combien qu'on a pris des mecs bons. On se dit, oh, génial, on a signé lui. Et à l'arrivée, Joey Galloway. Un jour, on a eu Joey Galloway. Je sais pas si vous vous rappelez de ce joueur. C'est un joueur exceptionnel. C'est un monstre, un pro bowler et tout. Il signe aux Patriots, il a fait un camp et il est parti. Il a même pas eu son maillot.
Après, faut pas oublier, il a 31 ans. Donc,
voilà, il est 31 ans, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'il est encore capable
et
voilà. Je serais pas surpris de lui le voir partir et de voir Philippe Dorsett rester. Tu vois.
Alors, si Demarius Thomas part, je pense que ça veut dire qu'ils auront la certitude que Flash.
Que Josh Gordon revient.
Ouais, non, tout à
ouais.
fait.
Moi, je mais pense je, que... j'en suis certain, ouais. Parce que tu peux pas te permettre de pas avoir de profondeur, même si le type est.
On l'a
pas
déjà
bon.
Fait, on l'a déjà fait sans profondeur.
Mais oui, on l'a déjà fait.
Ouais. Ouais, mais même si le type est pas bon, il faut une menace profonde au final. Même si le mec reçoit pas de balle, ça libère un autre receveur au final. Donc faut avoir une attaque profonde, même si Brady dans ses torts et ses travers balance un peu trop loin ou balance un peu trop.
Oui, mais tu as un Dorsett, même si c'est pas un dieu vivant, il peut jouer ce rôle. Et puis voilà. Tu as un Edelman qui peut quand même aller chercher une passe longue. Et ouais. Tu as un Harris qui, malgré tout, avec son gabarit, peut aussi courir loin ça peut compenser.
Ça peut compenser. Mais tout dépendra des training camps et on verra bien.
Oui, bien sûr.
Ça, oui, mais c'est justement ces questions-là qu'il va falloir suivre. Et c'est là où on va avoir des éléments de réponse aussi. De ce côté-là. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de toute l'attaque et des jeux au sol. Vous retrouverez plus d'informations dans les articles, mais il y a certains sujets qui vont être intéressants. C'est aussi au niveau de la special team, ça fait partie des batailles entre un Hitman qui vient aussi avec ses qualités de special team, un Bolden que l'on aime ou pas avec ses qualités de special team. Est-ce qu'ils vont tous faire les camps et donc prendre une place dans le roster d'un autre receveur ou d'un autre coureur? C'est possible. Ça ne plaira pas à tout le monde.
Les combats seront à ce niveau-là, en tout cas, c'est sûr.
C'est sûr. Donc ça, vous retrouverez un peu plus de détails dans le blog où on détaillera un peu équipe par équipe, etc., joueur par joueur. Donc n'hésitez pas à les lire pour à l'approche du training camp qui démarre bientôt. Et nous, on va attaquer la troisième partie de l'émission maintenant où on va parler de la défense. On l'a déjà évoqué un tout petit peu, mais maintenant, c'est Bill qui est aux manettes. Alors, à quoi peut-on s'attendre ? On l'a évoqué tout à l'heure dans l'émission où effectivement le départ de Flores et sa performance notamment au Super Bowl ont été absolument monstrueuses avec des feintes dans tous les sens, des jeux cachés absolument extraordinaires de ce qu'a pu faire cette défense des New England Patriots. Et du coup cette année, on appuie sur le bouton reset et on recommence tout avec un nouveau coordinateur défensif qui n'est autre cette fois-ci que Bill. Bill, ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'il n'avait plus vraiment les rênes entre guillemets. Il était toujours là derrière, mais c'est pas lui qui avait les prises de décision, etc. Il y a eu Flores, il y a eu d'autres coordinateurs avant lui, avant que Bill vraiment récupère les pleins pouvoirs. Cette année, c'est le cas. En duo quelque part avec un ancien de la maison qu'on connaît tous, Jerod Mayo, qui va vraiment apporter pour le moment au niveau du coaching des linebackers. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont lui donner plus de pouvoir à terme? Comment ça va s'orienter? Président, quels sont pour toi les éléments de réponse?
Écoute, ça, je ne suis pas du tout inquiet. Alors bon, je réponds souvent ça. Mais pourquoi je ne suis pas inquiet? Il y a des raisons. Hein. C'est pas, je ne suis pas optimiste de nature. C'est juste que Jerod Mayo, bon, outre le fait que ce soit mon linebacker préféré peut-être de l'histoire des Patriots, était un génie de capitaine sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un peu pour, si on devait faire un lien avec le soccer, ça serait un Didier Deschamps à l'époque où il était sur le terrain et il est devenu un bon entraîneur. Bon, ben là, ça serait pareil. C'est-à-dire que si je vois cette même progression pour ce joueur de football, je serais, en plus d'être ravi, pas tellement surpris. Donc moi, le fait qu'il y ait Mayo, même si c'est pas lui pour l'instant qui officiellement est le coordinateur défensif, pour moi, petit à petit, il va prendre ses marques et y parvenir. En tout cas, je serais très surpris du contraire. Donc finalement, c'est ça qui me rend assez optimiste. Et surtout, souvenons-nous que Mayo a joué avec un Hightower. Donc, c'est-à-dire qu'ils se connaissent sur le terrain. Maintenant, il va être le coach. Et c'est complètement dans l'esprit des Patriots, ça. C'est dans l'esprit grande famille. Et du coup, je suis assez optimiste pour la défense à ce niveau-là.
Et toi, Jean-Jacques, justement, quel est ton ressenti un peu? À quoi pourrait-on s'attendre sur cette défense?
Bah, comme dit le presse, c'est la suite logique en fait. C'est un maillot, c'est la personne qu'il nous fallait parce qu'au final, il connaît le système, il connaît comment on fonctionne. C'est la personne qui est le plus indiquée à faire ce job. Après, est-ce qu'il passera coordinateur défensif? Je ne pense pas. Je pense que cette année, ça va être Bill qui va avoir la main. Complète dessus. Est-ce que ça
mais
fonctionnera?
Mais est-ce que quand tu dis tu penses pas, est-ce que tu penses pas qu'il le devienne sur le papier ou tu penses pas qu'il le devienne et sur le papier et dans la réalité? Alors, moi je le vois pas devenir sur le papier, mais je
le
vois dans la
réalité. Il ne le deviendra pas sur le papier. Mais par contre, Bill, quand il va être coordinateur défensif, il va falloir qu'il il donne ses décisions, ses choix, mais qu'il se décharge un petit peu de la charge de travail qu'il va y avoir en global, en fait.
Ben oui, en coaching.
Et forcément, ouais. un type comme Mayo va servir de tampon, va servir de... Et comme il connaît le système et comme il connaît la maison, il n'aura pas besoin de temps d'adaptation. Et même s'il n'a jamais fait ce job, je suis sûr que son expérience de capitaine va prendre le dessus et va faire qu'il sera un bon coach. Et je pense que c'est surtout sur le revers de la scène que ça va changer, mais pas sur le papier. Sur le papier, il n'y aura pas marqué Mayo, coordinateur défensif.
Non, voilà, ouais, bien sûr.
Ils ne donneront pas de responsabilités comme ça, mais il les prendra de lui-même.
Bon, ben voilà.
C'est la logique.
Donc ça rejoint ce que je dis. Et honnêtement, si vous imaginez, on vous dit un ancien linebacker va devenir coach, un ancien linebacker de la maison des Patriots, hormis André Tippett, vous allez dire Jerod Mayo, quoi.
Ouais.
C'est obligé. Et éventuellement, dans le futur, on dira peut-être Dante Hightower. Voilà, allez. Mais c'est les
dans
trois.
Dans le futur
qui...
lointain, quand même. Hein,
oui, non, mais lointain. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment les trois. Mais... Les oui. trois gros qui peuvent devenir coach. Parce que même un Teddy Bruschi, je ne le vois pas coach non plus, tu vois, même s'il si avait
joueur,
cette fougue
joueur,
et tout.
Oui,
mais...
Il n'y a pas de problème, capitaine aussi, mais il n'avait pas la coaching comme.
Exactement. Et Jerod Mayo, je trouve qu'il a. Donc, à mon avis, si ce n'est pas cette année, c'est l'an prochain. Mais dans tous les cas, à mon avis, cette année, ça sera tout comme.
C'est possible que ça soit une révélation de cette année. Hein. C'est possible. Hein.
Ce serait bien parce qu'à la différence de Flores, lui, il ne partira pas ailleurs. Il restera aux pattes.
C'est,
voilà.
c'est vrai.
Parce que lui,
vrai.
Il fait vraiment partie de la maison, quoi.
Et,
c'est vrai, ouais.
Et mais on parle effectivement de Mayo, mais pour vous, alors c'est très compliqué à dire. Bill, est-ce qu'il est capable, alors je vais pas dire faire une Flores parce que ça serait quand même manquer de respect à Bill, mais est-ce qu'il est capable de produire quelque part ce qu'a proposé Flores, c'est-à-dire beaucoup de jeux cachés, se réinventer, ou est-ce qu'on va avoir un peu du standard Bill quand il était coordinateur défensif, c'est dans ses appels, dans sa construction, du classique, chacun fait son job, et du grand classique, chacun prend ses joueurs, etc. Avec potentiellement un peu de pass rush, mais pas trop, etc. Chacun fait son job, chacun a ses assignations, ou est-ce qu'on va avoir des jeux cachés, des pressings, enfin, du pass rush inversé, enfin, plein de trucs que Flores a développé, et que quelque part, est-ce qu'on va avoir ce genre-là de Bill, et donc découvrir un nouveau Bill défensif, où ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus standard. Président, t'en penses quoi?
Je pense que ça...
Vas-y.
Moi, je vois ça plutôt comme une formation hybride, tu vois. Ça va être de l'hybride. On va avoir du Bill. Et tout ce que Flores a apporté de bon, il va le récupérer. C'est une éponge, ce mec, hein, faut pas croire. Hein. Tous les ajustements que tu as dit... Tous les revers et tout, on va les faire ces choses-là. Parce que les joueurs les ont appris, on va les apprendre aux rookies. Et il va y avoir tout un processus qui va faire qu'on va jouer comme l'année dernière avec la patte de Bill. Et je pense que ça risque d'être une combinaison un petit peu hybride de un peu à l'ancienne, un peu à la Flores, qui a laissé un petit peu ses marques et tout. Je pense que ouais, ça se fera comme ça, mais après je serai pas dans le coaching staff pour le savoir vraiment, mais c'est ce que je pense.
Oui, je suis assez d'accord. Après, moi, c'est un peu le truc qui me faisait peur quand j'ai vu Bill qui prenait les rênes de la défense. Ça m'a un peu fait peur. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a tout à perdre, il a tout prouvé, et là d'aller là, je trouve qu'il peut se planter, tu vois ce que je veux dire. Et si il se plante, alors je te dis pas, tout le monde va lui tomber dessus. Oui, en fait, Bill, il était bon dans le management, mais finalement pas si bon que ça comme coach. Non, mais on va l'entendre. Hein, ouais.
Oui,
donc en fait, pour moi, il a tout à perdre. Le truc qui me fait avoir moins peur, c'est que Hightower, il est le capitaine et franchement, ça roule. Kyle Vannoy, il est énorme, il est sûr, il est solide. Là, on est en fin de contrat pour lui. À mon avis, dans l'année, il a un prolongement de contrat. Donc, en plus, il va être en forme, il va être content, il va jouer le feu. Ensuite, il y a un Bentley qui revient. L'an dernier, il a fait une saison de fou avant de se blesser. Donc, il connaît le système. Après, on a un Jamie Collins, il connaît la maison. Donc, d'un point de vue linebacker, honnêtement, zéro souci. En plus, c'est Mayo qui drive. Au point de vue linebacker, honnêtement, aucun problème.
Non,
le seul point, peut-être, qui me fait un peu plus peur, c'est notre ligne défensive. Là, Bill, et Maillot, il va falloir qu'ils bossent. Parce que la ligne défensive, elle change un peu. Il y a des... Moi, j'attends Adam Butler un peu plus présent. Lawrence Guy, qu'est-ce qu'il va donner? Wise, qu'est-ce qu'il va donner? Voilà, là, on est un peu dans l'inconnu. Mais par contre, au point de vue, si d'un coup tu analyses le backfield, on a un Jesse Jackson qui est monstrueux. Il y a les deux McCourty, ma foi, ça roule. Il y a Patrick Chung, maintenant, c'est un leader. Il y a Gilmore, mon nouveau chouchou depuis son interception au Super Bowl. Bah, ben, c'est bon, tout le monde l'avait descendu quand on l'a signé. Regardez le résultat, c'est un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Donc honnêtement, à part la ligne défensive, je ne suis absolument pas inquiet. Donc si Bill, à l'arrivée, il n'a que la ligne défensive à s'occuper, bon, ben, il devrait gérer.
Oui, ça va être un sujet qui va être un peu... à suivre, notamment un peu ce que va faire Bill et tout, ça va être des choses intéressantes. Puis la confirmation, on va voir, certaines aussi des révélations qu'on a eu saison dernière, Jesse Jackson et Gilmore, c'est quand même deux vraies révélations. Quid d'Anne Dawson aussi, qu'on va voir pour la première fois.
C'est vrai, qu'on attend. Et n'oublions pas Duron Harmon quand même, parce que...
De qui?
Pardon, excusez-moi, non, mais j'avais oublié de le citer, excusez-moi. Ouais.
Ah non, mais je ne vois pas de qui tu parles. Je savais même plus qu'il était effectif.
Oh, punaise.
Ah non, mais ça, on se demande qui c'est, je ne sais pas, chouchou, je ne connais pas.
Mais pourquoi il irait pas voir du côté de Tennessee là, avec Logan? Ils iraient bien tous les deux là-bas.
Ah ben, c'est ça, les New England, Tennessee, on connaît tous. Hein.
Ouais, mais putain, ça serait parfait.
Allez, c'est clair. Allez, on va attaquer la toute dernière question de l'émission, messieurs. On va aller en marcher tout de suite. Pour vous, allez, si vous devez identifier un joueur offensif ou défensif, etc., qui va être un espèce de Jesse Jackson de révélation pour cette saison, qui peut être une surprise. Jean-Jacques, pour toi.
Allez, Jean-Jacques, parle-nous de ton receveur.
Ah non, c'est pas un receveur, c'est dans la défense. C'est dans la défense. Ouais. Non, tu parlais des problèmes de la defensive line. Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire un rookie qui va faire sa saison, qui va, je pense, montrer quelque chose.
Ah, je te vois venir. Il est blond.
Je pense que ça va être Chase Vukovic.
Oui.
Voilà. Parce que ce cas-là, je déteste le collège où il était.
Hein? Moi aussi. Voilà.
Mais j'ai vu quelques petites actions, j'ai vu ses stats, j'ai vu un petit peu le gabarit et tout ça. Et je pense que ce mec-là risque de nous apporter beaucoup si on l'aligne. Après, c'est si il est aligné. Il est possible que ça ne soit pas cette année, mais l'an prochain. Ça dépendra de son évolution sur les training camps et sur les premiers matchs de pré-saison, comment ça va se passer. Mais c'est un mec quand même qui a fait sur 26 départs de match, et il a joué 45 matchs en tout, il a fait quand même 18 sacs en collège. C'est quand même pas mal. C'est un mec qui porte le numéro 52, d'accord, pour l'instant. Et il a la tête de... Comment il s'appelle? Celui de l'ancien de Green Bay.
Voilà.
Il lui ressemble, mais vraiment très porté. On dirait son frère.
Oh, j'espère que ça sera pareil.
Et si
c'est pareil, ça peut être.
Si c'est
très
pareil,
bien.
Franchement, on risque d'avoir un futur All-Star. Mais après, ça sera que l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que c'est ma petite pépite de cette année, je pense.
Ouais, c'est Clay Matthews.
C'est le Clay Matthews.
Ah, ça serait bien, hein, un Clay Matthews, je prends.
Hein. Voilà. Ouais. Mais il lui ressemble, il a le même numéro. Après, est-ce qu'il a le talent? Je suppose que oui, mais est-ce que ça va se prouver sur le terrain? On verra.
Oui, ça va être sérieux. Ça va être très curieux. Il a une certaine hype, il a un certain, en tout cas, personnalité qui fait que on peut avoir quelque chose d'intéressant. À voir maintenant si effectivement ça va se traduire sur le terrain et tactiquement comment il va être utilisé, comment il va s'intégrer à tout ça. Mais c'est vrai qu'avec, potentiellement, ça peut bien matcher avec un Jaron Mayo, etc. En termes d'envie, ça peut être quelque chose d'avoir des mecs qui se donnent sur le terrain. Ça peut être déjà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif, des choses qu'on a, je vais pas dire rarement vu en défense des Patriots, mais un nouveau visage qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez les Pats. Donc ça peut être hyper intéressant. Président, pour toi, quelle va être cette surprise ou la révélation qu'on va pas forcément venir cette saison?
Alors là, je t'ai préparé un petit dossier, hein, ça va te plaire. Hein. Cédric, tu es prêt, tu es assis?
Vas-y, on est à plus d'une heure, donc tout va bien.
Non, moi, Moi, pour moi, la surprise, elle va venir de chez les punters.
Et oui.
Ah ouais. Parce qu'on a, on a un Jack Bailey qui a été drafté.
C'est vrai.
On a ce punter qui vient de Stanford, donc d'université qui est quand même tout sauf une petite université. Il connaît le haut niveau, il connaît la pression, il sait ce que c'est les moments clés, les moments forts. Et rappelez-vous que l'an dernier, on avait essayé dans les camps de mettre en concurrence Ryan Allen, donc notre punter actuel, avec Corey Bojorquez, ou un nom un peu bizarre, là, Bojorquez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a Buffalo maintenant, celui-là. Et il avait mis en concurrence Bill, Ryan Allen. Et finalement, c'était Ryan Allen qui avait pris le dessus. Mais vraiment, il les avait mis en concurrence. Donc, on sent que déjà, il cogitait sur ce secteur-là de jeu. Et Ryan Allen, il faut savoir qu'il a 29 ans. Alors, pour un punter, les punters, ils peuvent jouer jusqu'à 40 ans, hein, c'est pas un problème. mais il n'a pas 20 ans non plus. Alors que le Jack Bailey, il est tout neuf. Si tu le signes, s'il fait l'affaire, tu es reparti pour 10 ans avec le même punter. Alors, là où Jack Bailey marque des points, bah déjà, c'est par sa jeunesse et par le fait aussi qu'il est capable de tirer les kick-offs, en fait. Il est capable de taper dans le ballon au moment des kick-offs. Et pas tous les punters en sont capables, en fait. C'est souvent les kickers qui font ça. Donc, Jack Bailey, il aurait cette polyvalence dans la special team. Et vous savez à quel point les équipes spéciales sont importantes chez les Pats. Et l'importance que met Bill dans les équipes spéciales. Donc, à mon avis, il y a un vrai duel à suivre dans ce training camp au niveau de l'équipe spéciale et notamment au niveau des punters, aussi fou que ça puisse paraître. Il faut savoir aussi que ce Jack Bailey, il est excellent dans le hang time, dans le temps que met le ballon à voler au moment du punt. C'est-à-dire que si on a un bon punter au-delà de l'endroit où il place le ballon, on a le temps de stopper le receveur du ballon et donc on empêche l'équipe adverse de progresser. Et ça, c'est un point énorme sur lequel Jack Bailey peut prendre le dessus sur Ryan Allen, parce que Ryan Allen est un peu moins bon dans ce hang time, même si Ryan Allen est très fort dans le placement. Il est capable de mettre la balle sur les 2 yards.
On l'a vu l'année dernière. Hein.
On l'a vu l'an dernier. Et on a vu, je veux aussi en parler, parce qu'à un moment donné, dans le Super Bowl, je suis dans le stade, je me retourne vers Florent et je lui dis « Est-ce que tu réalises le match que font les punters ?» C'est-à-dire que ça a été un match pendant longtemps de punter. C'est-à-dire que autant le mec des Rams que Ryan Allen, ils ont été monstrueux. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu peu de points. C'est qu'en fait, il y avait peu de relances des punts. Et du coup, les défenses, elles prenaient le dessus. Et on en a très peu parlé, ça aussi. Bon, déjà, on n'a pas fait trop de retours sur ce Super Bowl, mais je l'ai très peu lu. Et en fait, les punters ont eu un rôle énorme dans le faible nombre de points de ce match. Donc, c'est vrai que Ryan Allen est très bon. OK, il l'a prouvé. Il est quand même le seul punter à avoir 3 Super Bowls, avec un autre dans les années 70 qui était au Oakland Raiders. Donc, je ne sais même plus le nom. Mais donc, voilà, sur le papier, on va dire que Ryan Allen est monstrueux. Ouais. Mais il y a ce jeune Jack Bailey qui arrive et qui, à mon avis, va foutre une vraie panique dans ce rayon-là. Voilà, Cédric. Pour ma surprise.
Alors, la question, ça va être, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix.
Non, mais attends, donne-nous la tienne, toi aussi.
Oui, non, mais je vais parler justement.
Ah, attends,
Bien sûr, non, mais je vais donner la mienne. Non, mais j'avais une question sur les punters. Évidemment, je vais donner la mienne. Mais.
Dis-moi.
C'est la question sur les punters, il va falloir faire un choix. Est-ce que la surprise aussi, pour en compléter avec la tienne, si on prend Bailey, est-ce que Bill va pas chercher tout simplement aussi potentiellement aller trader Allen, va pas forcément juste le cut, mais aller frapper l'équipe parce qu'il y a clairement le niveau d'être dans
ça serait l'intérêt en fait.
Ça serait intéressant.
Ouais, peut-être. Oui, ça c'est vrai que je l'ai pas imaginé, mais oui, tout à fait.
Et c'est pour ça que
après, problème c'est que tu dois.
Ça va être. Tu dois avoir au final
dans ton roster final 52. Et tu peux pas te permettre de prendre un punter en plus en disant est-ce que je vais le trader à un moment donné.
Ouais,
donc il y aura une deadline à un moment donné.
Je pense que mais ça se trouve la deadline sera dès la première vague de cut en fait. Parce que justement il va falloir trader rapidement. Tu vas pas attendre la toute fin. Les franchises vont vouloir le tester un minimum. Donc ils vont le trader dès la première vague de cut pour que l'autre puisse. Parce que tout ce qu'il a fait, ils vont potentiellement, si c'est un bel et un bien sûr, vont vouloir remercier Allen et qu'il soit dans les meilleures conditions. Et pour ça, il faut le trader très rapidement de telle sorte qu'il puisse s'intégrer facilement à une nouvelle franchise et qu'il n'arrive pas comme ça, par miracle, à la toute fin. Quoi. Donc non, je pense que la décision, je pense, fera très vite, dès le lendemain, ou enfin très rapidement, même après le premier match, dès la première vague de cut, en fait. Je serais pas surpris que la décision vienne très tôt, en fait.
C'est possible, je sais pas. À suivre. Mais en tout cas, ouais, c'est à suivre de près, parce qu'à mon avis, on va avoir du changement.
Oui, c'est très, c'est, je pense qu'effectivement, c'est très possible qu'il y ait vraiment du changement. S'ils l'ont drafté, c'est qu'ils ont vu quelque chose aussi.
Ah, c'est pas pour rien. Ça,
c'est clair. Ils n'ont pas drafté à la toute fin, donc c'est qu'il y a vraiment potentiellement quelque chose. C'est, on n'est pas les Buccaneers qui draftent un kicker au deuxième tour. Pas, donc, normalement, si on a drafté comme ça, tôt, toute proportion gardée, mais si on a drafté un peu plus haut que prévu, c'est qu'on a vu quelque chose. De mon côté, concernant la surprise, on en a parlé, je l'ai glissé un peu tout à l'heure pendant l'émission, c'est du côté des receveurs. Je vais faire mon Jean-Jacques et partir du côté des receveurs, où je pense que prendre, notamment sur le non drafté, parce qu'effectivement, il y a des places à prendre clairement, je pense qu'un Jacoby Meyers peut être cette surprise. Alors effectivement, il y a Berrios, dont on ne sait pas ce qu'il vaut, donc il peut être aussi une vraie surprise, mais je pense que Jacoby Meyers, qui s'est déjà entraîné avec Tom pendant cette off-season, il a déjà vraiment entraîné, donc il a certaines qualités de receveur, de style de joueur que l'on n'a pas forcément, et qui peut apporter cette profondeur, justement, avec un Demaryius Thomas incertain, avec, même si on veut, Gordon qui peut revenir par revenir, il a une qualité qu'on n'a pas chez les New England Patriots, et potentiellement, par rapport à un Dorsett qui a un style un peu plus lent, un peu plus classique notamment, il peut prendre cette place dans le roster, et je pense que potentiellement un Meyers peut avoir cette possibilité de se montrer et voir potentiellement d'avoir des ballons la saison prochaine. Je pense que ça peut être une des surprises. Alors peut-être que je vais passer en ridicule et qu'il va faire sortir des premiers cuts, mais je pense que ce joueur-là a des vraies possibilités, que ça va être intéressant de le voir la saison prochaine et de voir s'il peut pas, pendant le training camp, faire quelque chose d'intéressant et se dire « Ah, il va prendre la place de tel ou tel joueur. » Après, on ne sait jamais avec les sacrifices qu'il peut y avoir par rapport à des joueurs de special team notamment, qui peuvent prendre la place de roster d'autres joueurs. Mais je pense qu'à Meyers, ça va
je
être...
Je serais surpris. Hein.
Ça va être un joueur à surveiller.
Je serais très surpris.
Et pourquoi ?
À voir.
Parce que tu te rappelles, l'an dernier, je ne me rappelle plus le nom de ce rookie qui est au Ward, qui avait 2 ans, je ne sais plus, qui a énormément perforé pendant les training camps et pendant les matchs de pré-saison.
C'était à Teams.
Que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Je ne me rappelle plus son nom, il ne me revient pas.
Il n'y a pas, c'est pas Teams quelque chose ?
Ça commençait par un T, ouais. Comment tu as dit ?
Teams ou un truc comme ça, non ?
Oui, oui, un truc, c'est ça, voilà, exactement. C'était dans le style. Bon, mais il a été monstrueux, 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 et même. Justement, aussi dans les articles, je disais, putain, à mon avis, il va être dans les 53, tellement c'est énorme ce qu'il réalise, quoi. Et il n'a pas été pris. Il n'a pas été pris. Donc là, pour le Meyers, il va falloir vraiment être très, 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 très fort. Hein.
Oui, ah oui, non, il va falloir être très fort. Mais à part, pour moi, à part Edelman et Harry, tout le reste, ça reste des... Oui, effectivement, ils ont l'air d'être bons. Mais ça reste des points d'interrogation, que ce soit Maurice, Inman, Demaryius Thomas dont il est blessé, on ne sait pas quel niveau il a, Berrios, qu'effectivement il a appris pendant un an, mais qu'est-ce qu'il va faire comme performance? C'est vraiment, c'est extrêmement ouvert derrière, et un Meyers potentiellement qui s'est déjà un peu entraîné avec Tom, donc on sait ce qu'il vaut, Tom aura fait sa roco aussi en disant ah, il a certaines qualités, potentiellement ça peut être quelque chose qui va montrer, qui fait qu'il va passer devant certaines personnes. Donc, ça peut être des choses qui font que ça se passe très bien, et on va voir. Moi, je serais très curieux de voir un peu, parce qu'il y a vraiment...
À voir, à suivre.
Ouais, il y a des choses, il y en a d'autres, hein. Vous avez sûrement lu dans le blog, mais voilà. Quid des quarterbacks aussi, hein, derrière Tom, c'est un vrai point d'interrogation aussi. Hein.
Mm-hmm. Donc, ouais, tout à fait. Surtout, est-ce que Etling va être le successeur ou pas? Ça paraît très étonnant, mais...
Non, Etling, c'est le joueur qu'on a drafté l'an dernier. Non, potentiellement, lui, il peut passer receveur aussi. Apparemment, il deviendra une espèce d'Edelman bis, quelque part. Donc, en tout cas, il s'entraînerait là-dessus, parce que, clairement, ça sera le quatrième. Après, quid du quarterback d'Auburn qu'on a drafté? Quid de Hoyer aussi? Il connaît, mais il se fait vieux. Est-ce qu'à un moment donné, quitte à aller drafter un QB, mettons le backup, et puis Hoyer, voilà. On le garde peut-être parce qu'il connaît la maison. Est-ce qu'on restera qu'à 2 QB plus 3? C'est plein de questions, en tout cas, qui sont à suivre pendant le training camp. Mais bon, si vous avez déjà lu le blog et les articles, vous savez déjà tout ça. Nous, on arrive à la fin de l'émission. Merci messieurs, merci Jean-Jacques.
Merci à toi, et ça a été un plaisir.
Et puis merci président de m'avoir accompagné également de nous.
Merci à toi, merci à vous et puis merci à tous les auditeurs d'être toujours aussi nombreux. J'espère que la saison va tenir ses promesses.
On l'espère tous, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver pour cette émission. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne saison, un bon training camp à tous. Une bonne saison au New England Patriots, une bonne saison au Fan Club. Hein. Vous pourrez retrouver évidemment le Fan Club, que ce soit sur le Facebook, sur le blog, ainsi que sur le Twitter et sur Instagram. On est absolument partout, mais ça, vous le savez déjà.
Partout, toujours.
Exactement. Il me reste à vous dire la célèbre phrase. N'oubliez pas, le Fan Club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir.